Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why, this is why, this is why I'm hot.
Passé de 1 minute précisément. Bienvenue dans Soft Power en direct jusqu'à 20h depuis la maison de la radio. Bonsoir à tous. Ces dernières semaines, nous avons reçu dans cette émission des membres du gouvernement ainsi qu'un responsable du Front National. Ce soir donc, nous voici avec les Républicains. Je suis très heureux d'accueillir en direct du studio 108. Studio 108, c'est un nouveau studio pour nous ce soir de la maison de la radio. Valérie Pécresse. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Alors vous êtes tête de liste Les Républicains en Île-de-France, ancienne ministre de l'Enseignement supérieur, ancienne ministre du Budget, porte-parole du gouvernement sous Nicolas Sarkozy. Ce soir, nous parlerons politique, bien sûr, mais aussi et d'abord, en lien avec les thèmes de notre émission, de l'influence de l'Île-de-France, de son soft power, comme on dit, mais aussi du numérique et de la culture en Île-de-France. Vous pouvez d'ailleurs poser vos questions à Valérie Pécresse sur les réseaux sociaux avec le hashtag softpower, mot dièse softpower. Vous serez interrogée ce soir, Madame Pécresse, par Marjorie Paillon de France 24 et par le journaliste italien Fabio Gambaro de La Repubblica. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Et puis au sommaire toujours de cette émission, 19h10, l'alphabet numérique, notre séquence décryptage du web. Ce soir, la radio 2.0 avec vous, Xavier Fillol, co-organisateur des rencontres radio 2.0 qui auront lieu ce mardi à la SACEM. De quoi s'agit-il ?
Bonsoir, merci. Il s'agit en fait d'une journée consacrée à l'avenir de la radio, mais la radio au sens large, c'est-à-dire qui intègre les web radios, qui intègre les plateformes de streaming et toute cette forme qu'on appelle aux États-Unis le digital audio.
La radio digitale, on en parle avec vous dans une quinzaine de minutes. Et puis, toujours au sommaire ce soir de cette émission, Patti Smith ou encore le jeune pianiste prodige Benjamin Grosvenor. Tout cela dans Soft Power jusqu'à 20h, à suivre sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist de 10h, ainsi que sur Instagram, Facebook en podcast et sur France Culture en direct. sur France Culture, l'actualité comme chaque semaine pour commencer cette émission avec nos chroniqueurs et invités. J'ai cité Fabio Gambaro de La Repubblica ainsi que Marjorie Paillon de France 24 qui a la tâche d'introduire ce soir Valérie Pécresse.
Et quelle tâche ? Donc d'abord un portrait surtout. Valérie Pécresse, née Valérie Roux, c'est d'abord une des plus jeunes bachelières de France, bac en poche à 16 ans. Ni les classes de la prépa Sainte-Geneviève, HEC ou l'ENA ne vous résistera. Un parcours brillant mais un peu trop technocrate au goût de certains. Alors votre entrée en politique, vous serez biberonné à la méthode Jacques Chirac pour le faire, façon corrèze et bête de campagne. Il vous recrute dans l'euphorie de la victoire de 95 et vous fait de vous une de ses conseillères à l'Élysée. Les années 2000 pour vous ouvrent les portes de l'Assemblée nationale grâce à la deuxième circonscription des Yvelines, puis celle des ministères sous le gouvernement Fillon, l'enseignement supérieur et la recherche en 2007, puis Bercy en 2011 et malgré les controverses, vous ferez voter la loi sur l'autonomie des universités. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois que vous partez à l'assaut de la région Île-de-France et vous êtes nombreux, très nombreux, à concourir au titre. Claude Barthelone pour le PS, Emmanuel Cosse pour Europe Écologie Les Verts, Pierre Laurent pour le Parti communiste français, Valéran de Saint-Just pour le FN ou Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France. Un casting première classe où les partis jouent gros. Après la tempête sémantique et politique boutant Nadine Morano hors de la liste Grand Est, ou 3 ans de bataille homérique et de règlement de compte au sein d'un parti déchiré par la défaite de 2012, les Républicains ont besoin d'une victoire sur laquelle capitaliser, mais vous, peut-être plus que les autres. Je vous cite. Si je ne suis pas élu cette fois, j'arrête la région. Et si on perd 2017, j'arrête la politique. Vous le répétez à vos futurs électeurs. Une crise de foi pour une catholique pratiquante lasse de voir le scénario des Borgia se jouer dans sa propre famille politique.
Alors Valérie Pécresse, on est ensemble jusqu'à 20h. On va commencer un petit peu par des questions politiques et ensuite on viendra sur les thèmes de cette émission. Je l'ai dit, numérique, influence, culture. Un Français sur trois prêt à voter pour Marine Le Pen. Sondage IFOP rendu public ce matin dans le JDD. Quelle est votre réaction, sentiment par rapport à de telles...
Je pense que Marine Le Pen doit être un peu déçue en lisant ce chiffre, parce qu'en réalité, ça veut dire que elle n'aura jamais, en tout cas pas à court terme, la majorité dans le pays. Et donc, c'est un sondage qui est finalement, pour moi,
C'est pas vous qui êtes déçu,
finalement. À l'inverse, non, plutôt à l'inverse de ce que de ce que vous.
On pourrait laisser entendre. Oui.
Vous laissez entendre. Enfin, c'est beaucoup un sur trois qui sont prêts. Oui, enfin, c'est beaucoup qui sont prêts, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Et moi, je vais vous dire ce que je pense sur le Front National. Je pense que le Front National, il prospère sur notre impuissance et sur nos failles. Et donc, quand on est bon, eh bien, on le bloque. Et on l'a bloqué au municipal de 2014, on l'a bloqué au départemental de 2015. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les électeurs se sont rendus compte que ce parti, de la vraie nature de ce parti, qui se nourrit des problèmes, qui se nourrit des frustrations et des colères. Mais quand il y a en face des candidats Front National, des candidats Républicains, UDI, Modem, qui arrivent et qui disent « Nous, concrètement, nous nous engageons, nous allons vous résoudre vos problèmes et voilà nos solutions », eh ben finalement, il y a une forme de containment, pour prendre le mot
américain,
oui, une forme de plafond de verre qui se fait et le FN est renvoyé chez lui. Donc moi, ce que je veux faire, évidemment pour les régionales, c'est la même chose. C'est-à-dire faire être la candidate des solutions concrètes, aller trouver les solutions qui donneront de l'emploi aux 660 000 chômeurs de l'Île-de-France, faire la révolution des transports, trouver concrètement, les moyens financiers de faire mon programme sans augmenter les impôts. Tout ça, c'est des défis que je me lance à moi-même, mais je remarque que nous sommes à 57 jours des élections et que pour l'instant, il n'y a pas eu une proposition concrète faite par les candidats du Front National, pas non plus par les candidats socialistes d'ailleurs.
On a beaucoup parlé évidemment de la phrase de Nadine Morano, la France pays de race blanche. Il faut tourner cette page, question qu'on ne peut pas ne pas vous poser.
Oui, enfin, je me sens pas tenue par les propos de Nadine Morano. Moi, j'ai dit ce que j'en pensais. Pour moi, la France est une nation, ça n'est pas une race. J'ai condamné ces propos dès le soir même du jour où le lendemain du jour où ils ont été prononcés. Mais
c'est une phrase qu'elle avait planifiée. Quand on réécoute l'émission, on s'aperçoit qu'elle le dit une fois, que ça passe inaperçu. Elle le redit. Petite phrase qui a été très préparée, très préméditée en réalité. C'est aussi le jeu de la communication qui, en l'occurrence, elle a été prise à ce jeu-là.
Alors c'est vrai qu'en ce moment il y a un grand sujet, enfin qui j'allais dire qui serpente dans la vie politique, c'est est-ce que finalement on est audible que quand on fait le buzz, est-ce qu'on est audible que quand on monte le son, ce qui est une vraie question qu'il faut qu'on se pose, parce que moi je ne fais pas de la
stratégie sans doute sur ça.
Moi je ne fais pas de la politique en montant le son, et c'est vrai que je crois que les électeurs ça n'a rien à voir avec les téléspectateurs. Je crois qu'un électeur, ce qu'il veut quand il met un bulletin de vote dans l'urne, c'est avoir un candidat qui est solide, un candidat qui est authentique, qui est sincère, qui est honnête, qui va faire. Et je pense que tout ce qui est buzz, c'est vrai que ça peut à un moment donné, alors là en l'occurrence ça s'est retourné contre elle, mais si c'est bien fait, ça peut à un moment donné provoquer des pics de popularité qui sont un peu fondés sur du vent, parce qu'en réalité on a fait une petite phrase, on a fait une petite...
Alors restons sur le fond, hein, on est sur France Culture. Il y a la une du New York Times ce matin, un article de Wesley Morris, jeune journaliste noir d'ailleurs américain, un article très commenté aujourd'hui, The Year We Obsessed Over Identity, qui raconte, qui décrit minutieusement comment est-ce que la pop culture aussi a fait évoluer ce pays, en l'occurrence les États-Unis. Il dit « Nous étions un pays vertical en matière de race et nous sommes désormais un pays horizontal. » Vertical, c'est la race dont vous héritez, le genre dont vous héritez par votre famille, des choix que vous n'avez pas faits. Et puis l'horizontalité, c'est au fond votre capacité à transformer, si on peut dire, et en tout cas à choisir ce que va devenir votre vie. Est-ce qu'on ne peut pas sortir par le haut de ce genre de débat en reconnaissant la pluralité des identités, la multiplicité des identités dans un pays comme la France?
Moi, je ne pense pas ça. Je pense l'inverse. Je pense qu'en réalité, c'est parce qu'on ne s'aime pas assez, nous les Français, que finalement ce genre de phrase cause autant de cicatrices et autant de blessures. C'est parce qu'on n'est pas suffisamment fiers de nous, pas assez conscients de ce que c'est que notre identité. Non mais, on est en Île-de-France. On est dans la capitale de, allez, c'est la sixième puissance, puisque nous avons rétrogradé, paraît-il, d'un rang, la sixième puissance mondiale. D'abord, moi, je ne me satisfais pas du fait que nous soyons passés au sixième rang. Je veux qu'on remonte au cinquième. Mais le sujet, c'est simple. C'est l'Île-de-France devrait être la métropole européenne où tout se fait. C'est pas normal que les cultureux aillent à Berlin. C'est pas normal que les chercheurs aillent à Munich. C'est pas normal que les start-up aillent à Barcelone ou que les investisseurs aillent à Bruxelles ou à Londres. Donc le sujet, c'est on doit s'aimer. Mais pour s'aimer, il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance dans sa capacité créative. Il faut libérer les énergies. Et on fait tout le contraire. On fait de la suradministration, on fait de la surfiscalité, et puis on fait de la culpabilisation à outrance sur nous, les Français, qui sommes forcément pas bien, pas suffisamment bien, pas suffisamment ceci, pas suffisamment cela. Donc moi, le sujet, c'est rendre sa fierté. Moi, je veux une Île-de-France conquérante. Je la veux exemplaire, parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. Je veux qu'on y respecte la loi, parce que il y a une question d'autorité de la loi aussi qui est un ciment
à,
social.
Petite référence à Claude Barthelone.
Non, pas du tout. Alors là,
au cœur d'une enquête préliminaire sur un possible emploi fictif en Seine-Saint-Denis.
L'exemplarité, ça vaut pour beaucoup de monde en politique. Effectivement, sans doute, on peut en parler dans la campagne, mais c'est pas une question de campagne. C'est vraiment l'exemplarité, c'est quelque chose de profond qu'il faut ancrer dans la politique. Et puis, il faut aussi que cette région, elle soit réconciliée. Et pour réconcilier tout le monde, il faut de l'emploi. Il n'y a pas 36 solutions. Si tout le monde aujourd'hui se disait « mon avenir va être meilleur demain », si le travail était vraiment récompensé, le mérite, l'effort, si les règles du jeu, quand on les respecte, ben on y gagnait à la fin, je pense que les choses iraient beaucoup mieux.
Une question de Marjorie Paillon.
Choc de fierté, choc de réconciliation donc pour vous, pour l'Île-de-France, et pour faire, si je comprends bien, de l'Île-de-France un emblème en la matière. Est-ce qu'il y a aussi un choc de réconciliation, décidément c'est dur à prononcer, à mener au sein des Républicains ?
Ah ben nous, il y a l'esprit de Baltard. Moi, j'ai voulu placer ma campagne sous le sceau, justement, de l'unité. Et de ce point de vue, je dois avouer que nous avons réussi un bel événement, qui était ce meeting où j'ai fait applaudir Madame de Sarnez, Monsieur Lagarde, donc le président de l'UDI, la présidente du Modem, et où nous avons eu tous les leaders de l'UMP, jusqu'à la droite forte, qui étaient présents et qui se sont unis derrière nous. Franchement, une unité comme ça de la droite, je pense que ça s'était plus vu depuis très 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 longtemps, et j'étais très fière d'avoir réussi, j'allais dire, ce rassemblement pour l'alternance. Le sujet, c'est que moi, je fais une campagne que sur les propositions, donc je proposerai un certain nombre de solutions, mais c'est important aussi d'avoir une équipe très rassemblée derrière, parce que cette primaire avec des querelles de chapelle inquiétait énormément nos électeurs, qui se demandent si on va être rassemblés pour la présidentielle.
Pour les primaires, vous soutenez qui à ce stade ?
Mais moi, je soutiens personne. Monsieur Martel, d'abord parce que je suis une femme libre et que je choisirai mon candidat
ensuite,
en fonction...
Ensuite, parce qu'on est un peu en avance.
Sur... Non, mais je choisirai mon candidat en fonction de son projet. J'en ai assez. On n'est plus là pour dire j'aime un tel, j'aime pas un tel. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on sauve la France, comment on la sauve du déclin, comment on la sauve du chômage de masse, comment on la sauve des inégalités qui ne cessent de s'accroître, comment on la sauve de la xénophobie, de la pression communautaire. C'est ça les vrais enjeux.
Valérie Pécresse est mon invitée ce soir jusqu'à 20h. Après avoir fait ce rapide survol politique, on aurait pu citer aussi la phrase de Madame Le Pen à l'égard de François Hollande, vice-chancelier de Madame Merkel. Je ne sais pas si vous aviez une réaction sur ce genre de formule de la semaine.
Oh, vous savez, c'était la même qui parlait de Merkozy en expliquant que Sarkozy était à la traîne de Merkel. C'est toujours la même chose. Quand on veut rabaisser le président de la République, on dit qu'il obéit à l'Allemagne. La vérité me pousse à dire que c'est beaucoup plus vrai aujourd'hui que ça ne l'était avant, puisque quand j'étais ministre du budget, moi j'ai vu se dérouler les sommets Merkel-Sarkozy, et je peux vous dire que c'était pas elle qui décidait. Quand on a fait le plan de relance au moment de la crise de 2009, c'est Nicolas Sarkozy qui est venu avec le plan de relance et Madame Merkel qui l'a adopté quelques mois après. Donc on était leader à ce moment-là. On était leader aussi sur la Grèce. À l'époque, Madame Merkel voulait que la Grèce sorte de l'Union européenne. Moi, j'ai vécu cet été 2011 et la Grèce n'est pas sortie grâce à la France. Donc on a, à l'époque, en tout cas sous Sarkozy, on avait un vrai leadership européen. Sous François Hollande, je ne suis pas si sûre, et on le voit sur la question des réfugiés par exemple, où on a été en permanence suiveur.
Après ces questions politiques, nous allons revenir sur nos sujets numériques, influence notamment de l'Île-de-France, ainsi que culture avec Valérie Pécresse, qui est mon invitée jusqu'à 20h. Vous pouvez lui poser d'ailleurs vos questions sur les réseaux sociaux ou hashtag softpower.
Soft Power. L'alphabet numérique.
L'alphabet numérique, notre séquence qui décrypte les internets autour des mots du web, de ses expressions, ses tendances ou ses évolutions. Et ce soir, nous évoquons la radio 2.0 avec vous, Xavier Filliol, co-organisateur des rencontres radio 2.0 qui ont lieu chaque année à l'automne, et l'un des responsables de la société Radio Line. La radio 2.0, petite définition pour commencer, Marjorie Paillon.
Et la radio, c'est surtout une histoire de technologie, un petit miracle d'abord, né à la fin du 19e siècle et qui sera le fruit de travaux connexes d'Edison, Hearst ou Tesla et qui revient à capter les émissions de radiodiffusion pour les transformer en son. C'est ensuite un poste qui trône dans les salons des années 20, une arme à part entière lors de la Seconde Guerre mondiale, un média à emporter partout avec l'arrivée du transistor et un instrument de pouvoir qui sera démocratisé, voire libéré par François Mitterrand en 1981. Aujourd'hui, la radio reste le média préféré des Français, 63% d'entre nous lui font confiance pour s'informer. Reste à savoir si elle est celui des annonceurs, car dans cette guerre des ondes se transforme aujourd'hui une bataille des formats, web, podcast, streaming ou application. La radio ne se résume plus qu'à une fréquence sur la bande FM.
Alors, trois questions sur cette radio 2.0, une évolution importante justement de la radio et de son avenir. Révolution, changement, transformation, disruption comme on dit au niveau de l'écriture, au niveau de son accès via les technologies, enfin au niveau de sa monétisation. Xavier Filliol, vous suivez les évolutions, les mutations permanentes de la radio à travers les rencontres radio 2.0 que vous organisez. Commençons peut-être par l'écriture tout simplement. Comment est-ce que vous voyez la mutation de ce point de vue ?
Alors en fait, le bouleversement en fait qu'a apporté Internet et notamment sa dimension sociale,
réseaux sociaux donc.
Les réseaux sociaux nous invitent, en tout cas invitent les animateurs à repenser la relation avec son auditeur. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être omniscient et envoyer un signal comme en FM. On tient compte, comme vous le faites très bien d'ailleurs, des retours immédiats que nous apporte Twitter, Facebook. Et ça va beaucoup plus loin puisque maintenant on peut co-créer des émissions avec les auditeurs quand ils ne le créent pas par eux-mêmes. Des podcasts de création, aujourd'hui, il en existe énormément. Aujourd'hui, une des modifications les plus importantes, je pense que c'est le ton. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette stratégie d'engagement, de complicité. Jamais familiarité, mais complicité quand même. C'est-à-dire intégrer complètement l'auditeur dans son propos.
Et cet engagement, il est mesurable en plus.
Et il est mesurable, absolument. Aujourd'hui, on a des outils sur les réseaux sociaux qui nous permettent de savoir si les émissions sont reprises, sont retweetées, la fréquence, quelle est la communauté qui est la plus active. Et finalement, ça nous semble peut-être un élément peut-être vraiment différenciant de ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire la capacité à... recréer finalement du lien social avec ses auditeurs, ce qui est très très innovant.
Alors je vous propose d'écouter un extrait de Serial, le podcast créé par la journaliste Sarah Koenig pour The This American Life et WBEZ Chicago, laquelle a enquêté sur le procès d'un meurtre d'une jeune lycéenne à Baltimore en 1999.
This is a Global CalLink prepaid call from Adnan Sayed. An inmate at a Maryland correctional facility.
From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial. One story told week by week. I'm Sarah Koenig.
Générique déjà célèbre de cette émission Serial, dont l'histoire se déroule à mesure sans que l'auditeur ni même l'animateur ne sache où ça va aller, puisqu'elle reconstitue un procès. Alors je ne vous raconte pas la fin, mais on va savoir peu à peu si finalement le jeune qui en l'occurrence est en prison, il y a déjà depuis de nombreuses années, est-ce qu'il est coupable ou pas. Toute l'histoire et le succès de ce Serial, typiquement donc nouvelle forme d'écriture à travers un podcast. On a parlé écriture. Deuxième mutation, évidemment, c'est la mutation technologique et l'accès à la radio, Xavier Filliol.
Alors là, effectivement, on est dans la fragmentation la plus totale. D'une part, en termes d'usage, c'est-à-dire ce qu'on connaissait de manière linéaire devient délinéarisé à la demande, en replay ou en podcast, c'est-à-dire en téléchargement automatique. L'autre fragmentation, c'est les terminaux. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur un poste FM. Mais
on est même multi-terminaux.
On est totalement, extrêmement multi-terminaux avec le mobile, la télé. Aujourd'hui, un tiers des Américains écoutent la radio sur la télé connectée.
Via le câble, notamment.
Via le câble. On est dans la voiture, c'est-à-dire le poste radio de la voiture. Aujourd'hui, ça va être un terminal où on va pouvoir avoir Facebook, Twitter et toutes ces applications. Donc, l'aquarium qui préservait la radio maintenant plonge dans le grand bain, grand océan du net. Et donc, ça va être compliqué à garder une proximité avec l'auditeur en moins de deux clics.
Multi-fragmentation, multi-terminal, avec déportalisation aussi. On peut écouter une radio sur Facebook, un agrégateur ou sur YouTube, etc. Et pourquoi pas même sur un banc public, en l'occurrence, un exemple d'innovation radiophonique numérique originale. Sur les bancs, c'est une application de réalité augmentée sonore qui propose des petits récits de fiction à écouter sur son smartphone dans trois parcs de la ville de Paris. Sur une idée du producteur de France Culture, d'ailleurs Thomas Baumgartner, on entend ici un extrait du récit proposé par l'écrivain Tariq Naoui. Le son est binaural, en 3D. Écoutez au casque, elle donne la sensation d'être immergée dans le son et tout ça sur un banc public.
Mettez votre casque.
Sur les
bancs. Ici, vous serez bien.
Sur les bancs.
Sur les bancs.
Asseyez-vous.
Asseyez-vous.
Écoutez.
Mettez votre casque.
Hamster de Tariq Naoui.
Je crois qu'on en est à combien, là ?
202.
Voilà, 202 tours, c'est une bonne distance, hein. Ça doit faire dans les combien, en kilomètres ?
On s'en fiche de la distance. C'est le nombre de tours qui compte.
Ouais, c'est pareil, tour, distance, c'est pareil au final.
Ah non ! Tu vas pas recommencer encore !
Voilà, vous êtes en train, vous êtes assis sur un banc public et vous avez. Il se passe des choses autour de vous. Si vous voulez écouter l'intégralité, c'est en ce moment dans La Vie moderne sur France Culture, tous les jours, à 11h50. Alors, une question qui se pose à Vieille Fiole par rapport à l'avenir de la radio, c'est au fond, est-ce que le podcast est un peu comme les flux RSS ou le Google Reader, où on accumule au fond des contenus, parfois on n'a pas le temps de les entendre, est-ce qu'il n'est pas condamné finalement à disparaître par rapport à ce qu'on appelle le replay en streaming, c'est-à-dire au fond, la même chose, sauf qu'on va choisir son contenu lorsqu'on en a envie, lorsqu'on en a besoin, et non pas un abonnement qui est un problème d'accumulation et d'abondance.
En fait, c'est dû au développement des réseaux et notamment à l'augmentation de la bande passante. C'est-à-dire ce qui était obligé d'être téléchargé hier, et on le voit bien dans le téléchargement de la musique, aujourd'hui, grâce à l'augmentation de la capacité des réseaux, on le stream. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de le stocker, ça ne prend plus de place sur ces terminaux qui sont déjà pleins à ras-bord d'applications et puis de photos, de selfies même. Donc c'est immédiat, c'est sur n'importe quel terminal, et surtout quand on a téléchargé sur un terminal, évidemment c'est sur un autre qu'on a envie de l'écouter, donc ça posait des problèmes.
Alors on a évoqué les contenus et l'écriture, on a parlé de la technique, finissons avec la monétisation des audiences fragmentées qu'il faut, du coup, Xavier Fiole, monétiser.
Alors oui, c'est très compliqué puisque la mesure d'audience qui est proposée par Médiamétrie aujourd'hui commence à intégrer les différents terminaux, que ce soit le mobile, que ce soit les tablettes. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on peut écouter aussi la radio directement depuis Facebook. Donc c'est encore un autre espace qu'il faut mesurer depuis les agrégateurs. Il y en existe quelques-uns.
Donc au fond, on écoute la radio, mais on ne sait pas où et on ne sait pas comment la plupart du temps, même quand on l'a fait.
C'est ça. C'est pour ça que les marques radio s'intègrent de plus en plus dans leur propre contenu qui va être véhiculé finalement sur d'autres plateformes. C'est-à-dire que la tentation de dire on n'écoute que mes flux, que sur mon site, aujourd'hui elle est en train complètement d'exploser. Et la problématique, c'est justement comment on monétise un flux qui est porté par d'autres sur d'autres plateformes. Alors il y a des solutions, bien évidemment. Il y a l'insertion publicitaire, soit en pré-roll, soit au milieu du flux. Il y a aussi la possibilité de faire du programmatique, c'est-à-dire une sorte d'enchère inversée, un petit peu comme sur Google, où vous pouvez acheter non pas une marque, mais une audience. Vous dites les 15-25, je vais acheter.
Donc l'une des clés au final, c'est bien sûr les données. Comment est-ce qu'on garde, et celui qui a les données, au fond, une des clés de cette monétisation ?
C'est un des grands enjeux, effectivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plusieurs à penser que la radio doit être hackée. C'est-à-dire qu'elle doit se prêter au jeu d'être déconstruite et d'attirer finalement tous ces créateurs qui sont sur Internet, c'est-à-dire des développeurs, des designers, des gens qui développent des interfaces. Et c'est comme ça qu'elle retrouvera son intérêt, puisque les vrais créateurs aujourd'hui, au-delà des journalistes, ce sont tous ces gens-là qui font que les interfaces sont simples, sont séduisantes et qu'on a envie de télécharger et toujours d'écouter.
La suite, c'est quoi ? Le débat sur les métadonnées, les algorithmes, la recommandation ?
Alors, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les algorithmes, il y a plusieurs radios qui sont totalement programmées par les utilisateurs.
Pandora, par exemple, aux États-Unis.
Ou Pandora, c'est 1 million de titres avec 200 descripteurs musicologiques par titre. 200 descripteurs musicologiques, le tempo, l'orchestration et des algorithmes derrière qui font tourner. Et qui
autre étape, la personnalisation. À ce moment-là, vous faites une radio qui est juste pour vous.
Juste pour vous. Alors là, c'est bien plus complexe. Je pense que les gens, ils veulent cette approche à 360 degrés du streaming, c'est-à-dire pouvoir qu'on continue à leur raconter des histoires, mais aussi interagir sur le flux et faire eux-mêmes leur propre programmation.
Merci Xavier Filliol. Pour aller plus loin, et on reviendra régulièrement dans cette émission Soft Power sur ces questions de l'avenir de la radio qui nous concerne un petit peu aussi, c'est un peu nombriliste, mais ça nous plaît, ça nous intéresse. Vous pouvez consulter sur les réseaux sociaux au mot-clé Soft Power, articles, ouvrages et références dont on a parlé ainsi que d'autres, beaucoup d'autres. Vous pouvez également retrouver l'alphabet numérique en podcast sur le site franceculture.fr et pour tous les anciens mots de l'alphabet numérique, consultez notre page alphabetnumérique.com. Dans un instant, on retrouve Valérie Pécresse, ancienne ministre de l'enseignement supérieur, ancienne ministre du budget, ancienne porte-parole du gouvernement, tête de liste pour les élections régionales en Île-de-France, au nom du parti Les Républicains, mon invité jusqu'à 20h. En attendant, voici Patti Smith qui sera en concert à l'Olympia à Paris du 20 au 22 octobre. Suddenly, Johnny gets a feeling he's been surrounded by horses. L'Inde à l'instant de Patti Smith, extrait de Horses, son premier album, dont on fêtera justement le 40e anniversaire, ce qui ne nous rajeunit pas, Valérie Pécresse. À saluer aussi.
Un très bel âge.
À saluer aussi l'apparition de M-Train, le nouveau livre de Patti Smith, où elle chronique à 68 ans, avec poésie et douceur, sa carrière, ses amours, ses chers disparus, et d'abord le souvenir de la perte irrémédiable de son mari, écrit-elle. C'est la suite de Just Kids, paru en 2010, qui a connu un large succès. Ce second volume de l'artiste multi-plateforme, elle aussi, non encore traduit en français, est moins rock finalement que le précédent, mais plus littéraire, plus global aussi. Elle y raconte ses voyages, sa passion pour Jean Genet ou encore Arthur Rimbaud. M-Train, une méditation caféinée et nostalgique, signée Patti Smith.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Elle est candidate tête de liste pour les élections régionales en Île-de-France au nom du parti Les Républicains ainsi que de l'UDI et du Modem. Valérie Pécresse est mon invitée jusqu'à 20h. Trois grands sujets ce soir, après avoir parlé un peu de politique tout à l'heure. On reste sur les thèmes de cette émission Soft Power, le numérique, ensuite la culture et enfin on parlera de l'influence de l'Île-de-France. Le grand pari numérique, Valérie Pécresse, ça peut exister? Et si oui, ça prendra quelle forme?
C'est pas que ça peut, c'est que ça doit. Et j'écoutais la chronique sur la radio 2.0, moi, elle me pose un vrai problème qui est celle du fossé numérique. Parce que pour passer au streaming généralisé...
Il faut avoir de la 3G, il faut
très haut débit, de la fibre, il faut peut-être du satellite, enfin il faut trouver une solution. Et le sujet c'est comment est-ce qu'on dessert la France périphérique. Et la France périphérique, contrairement à ce qu'on croit, elle commence en Ile-de-France, elle commence à 30 km de Paris.
On a toujours pensé ça, la périphérie c'est la périphérie.
Voilà, elle commence à 30
km. C'est au-delà du périphérique.
Non, mais nous sommes la région, la première région des inégalités. C'est fou parce que on a tellement de prospérité au cœur et tellement de ruralité et de ghetto en périphérie, d'ailleurs même y compris à Paris. Donc on a des inégalités très fortes. Donc cette question de la qualité des réseaux, elle est cruciale. Et moi je crois que le rôle d'une région, c'est d'être l'aménageur du territoire. Et donc cette question du fossé numérique, elle est au cœur de la région 2.0.
Mais au fond, on sera tous d'accord là-dessus, mais on le fait comment? Comment vous le solutionnez?
Le problème, c'est une question. Il y a deux questions.
Parce que où le privé le fait, on sait que c'est difficile, ou le public doit le faire, on sait que c'est cher. C'est quoi la solution?
Non, mais il faut faire un donnant-donnant avec le privé. Le privé ne voudra fibrer que ce qui est rentable. Donc il ne fibrera chez moi que Vélizy et pas le Sud-Yvelines. Donc on sait bien qu'il faut qu'on négocie avec le privé. On a un sujet financier, mais on a aussi un autre sujet qui est un sujet de qualification. Moi j'étais à Montreux cette semaine, au campus numérique de Montreux, où on forme des chômeurs, des salariés en reconversion, des apprentis, des jeunes, au métier de la fibre optique. Il manque 5000 personnel qualifié sur les métiers de la fibre optique. Et le scandale que j'ai découvert à Montreux, c'est qu'un tel campus numérique, 0 € de financement régionaux, 0 € de financement européen, alors qu'il rentre dans toutes les cases des nouveaux métiers de demain pour lesquels on doit former.
Pourquoi? C'est quoi l'explication?
C'est la suradministration, c'est la bureaucratisation des collectivités locales. Une région comme
les délais, les règles, les...
Eh oui, on met 1-2 ans à créer une nouvelle formation. Donc on n'est pas assez réactif. Et donc il faut absolument, c'est pour ça que j'ai dit que je voulais être un président de région entrepreneur, parce que je crois que le sujet c'est l'accélération du temps. Et si on veut rentrer de plein pied dans cette région numérique, si on veut aider nos startups, si on veut les faire se développer très vite, on est obligé d'avoir un marché national. Donc cette question des réseaux, cette question de la formation qui doit aller beaucoup plus vite, c'est un enjeu très fort pour l'emploi.
Vous avez été ministre de l'enseignement supérieur, vous avez fait voter la loi LRU, je le rappelais en tout début de cette émission. Justement, concrètement, comment est-ce que ça va se passer dans les universités et les campus numériques en Ile-de-France? On parle beaucoup du plateau de Saclay, c'est un peu un vieux serpent de mer le plateau de Saclay. On disait que ça pouvait être une forme de Silicon Valley à la française par exemple. On n'en voit toujours pas le bout.
Oh non, mais vous pouvez pas dire ça. Enfin, c'est allez voir la dynamique en ce moment au plateau de Saclay. D'ailleurs, ça tombe bien, j'y vais vendredi. Donc, je peux vous dire que...
Vous verrez vendredi. Pour ça, vous avez pas vu encore.
Mais c'est ma circonscription.
Je sais.
C'est ma circonscription, donc je la connais par cœur. Non, mais je dis j'y vais vendredi parce que je veux faire un certain nombre de propositions aussi pour le monde de la recherche en Ile-de-France. Parce que là encore, si on regarde la part de budget que la région Ile-de-France donne à la recherche et à l'université, si on compare ça avec Midi-Pyrénées, si on compare ça avec Rhône-Alpes, on est très en deçà. Donc là aussi, c'est une question de quelle vision on a de notre région. On a 40% aujourd'hui de la recherche française en Ile-de-France. Et bon... Les autres régions me pardonneront de dire qu'on a dans beaucoup de domaines la fine fleur de la recherche française. Donc le sujet, c'est comment la région peut mettre en relation, et c'est ça le sujet de Saclay, peut mettre en relation le public et le privé. La question, c'est comment on transforme des découvertes, des prix Nobel en entreprise, en création d'emplois. Et ce sujet-là, ça nécessite aussi qu'on travaille sur les financements. Donc il faut mettre tout le monde ensemble. J'ai dit que je ferai une grande conférence pour l'emploi et la croissance en Ile-de-France, où je mettrai les syndicats, les patrons, les chercheurs, les banquiers ensemble, et on parlera formation.
Donc une Silicon Ile-de-France, si je vous suis bien. C'est le modèle à respecter, à suivre en tout cas.
On a aujourd'hui un potentiel qui est inexploité. On a tellement de talents. Tellement d'atouts que c'est un peu dommage de limiter, les startups du numérique à Paris, avec un plateau de Saclay juste aux portes. Mais le sujet, il est tout autant les transports, le logement, l'attractivité, voilà.
Et forcément, ce sont des sujets qui vont
être... Les budgets universitaires, on va dire ça au gouvernement aussi, quand même, parce que...
Complètement, mais c'est sûr que ce sont des sujets qui sont tout à fait connexes et qui vont forcément influer les uns sur les autres. Mais je vous entendais parler de Paris. Je sais que vous n'êtes pas une chantre du parisianisme en disant Paris c'est Paris, mais la région Île-de-France est aussi une région plurielle, une région qui nécessite aussi de pouvoir s'intéresser, en effet, comme vous le disiez, à des zones rurales, à d'autres types aussi de populations. Quand Anne Hidalgo fait finalement de Paris la capitale des start-up, ça vous énerve? Vous dites, mais attendez, il y a plein de choses d'autres qui se passent dans la région.
Je suis tout à fait favorable à ça. Je pense en plus que Paris, c'est une marque extrêmement puissante et que d'avoir nommé l'Île-de-France, d'avoir nommé notre outil de relation avec les entreprises Paris, région, entreprise, je veux dire, ça montre bien que l'Île-de-France, c'est d'abord la marque Paris. Mais l'Île-de-France, ça n'est pas que Paris. Et là où ça devient compliqué, c'est que c'est très bien de développer Paris, mais on ne peut pas développer Paris sans développer l'Île-de-France en même temps. C'est-à-dire que Madame Hidalgo, et je le dis, elle ne peut pas avoir une vision égoïste de Paris. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens,
mais
tous les Français...
Mais c'est les institutions qui veulent ça malgré tout.
Non, mais je vais vous donner un exemple très concret. Quand Anne Hidalgo dit « j'ai pas l'argent pour payer le prolongement du RERE jusqu'à la Défense et je ne paierai pas et vous ne me forcerez pas à payer », je dis « ça n'est pas possible ». Parce qu'on a 1 200 000 personnes qui tous les jours prennent le RERA, que le RERA est cramé de monde, qu'il a encore été en rideau pendant tout le week-end à cause d'un incendie qui est dû vraisemblablement à la vétusté de ce réseau.
On peut parler du RERB aussi, sans parler du C qui est encore
B,
plus
c'est
terrible.
Le bien, c'est celui qui fait justement Saclay-Roissy, donc celui que prennent les chercheurs qui ratent des avions parce qu'il est arrêté. Et vous savez, c'est très intéressant cette histoire. Il faut faire la révolution des transports en Île-de-France et on doit la faire avec Paris, mais on ne pourra pas la faire sans Paris.
Mais est-ce que la solution, c'est pas comme à New York, quand vous habitez Brooklyn ou Queens, vous êtes avec une mairie qui est une sorte de région avec des élus et non pas juste Manhattan. Est-ce qu'à un moment, on avait Paris à l'époque, avant les faubourgs, ça s'arrêtait au niveau des faubourgs, ensuite il y a eu le périphérique, est-ce qu'il ne faut pas passer complètement au-delà et avoir au fond une mairie de Paris qui soit une partie jusqu'à un certain point de l'Île-de-France?
Moi, Frédéric Martel, je ne crois plus aux solutions institutionnelles parce qu'on n'a plus le temps. Voilà, on ne va pas encore se refaire une loi pour encore refaire des frontières qui seront artificielles. On a fait une métropole du Grand Paris, on a appelé ça la métropole du Grand Paris. C'est le Grand Paris rétréci, vous l'avouez, c'est le Grand Paris sans Roissy, sans Saclay, sans Cergy, sans Marne-la-Vallée, sans Évry, sans Melun. Donc, je suis désolée de vous dire, ce Grand Paris-là, il est tout petit. Peut-être il y a 30 ans. C'était bien et révolutionnaire de franchir le périphérique et de dire la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine, c'est dans le Grand Paris. Il y a 30 ans. Mais on a mis 30 ans à faire percoler cette idée de métropole. Et aujourd'hui, elle est déjà obsolète. Parce que aujourd'hui, l'essentiel des salariés, d'ailleurs, maintenant, on peut même se poser la question si on était très visionnaire, d'un très grand Paris qui incorporerait aussi Chartres, Orléans ou Amiens, parce que combien de salariés
et le Havre avec la proposition qui existait jusqu'à un certain temps pour avoir un
rare,
port,
c'est
etc.
C'est plus rare de faire le Havre-Paris tous les matins. Mais en revanche, des franciliens des salariés franciliens qui viennent de Chartres ou qui viennent d'Orléans, il y en a énormément.
Alors pour ouvrir un peu à une comparaison plus internationale, Fabio Gambaro de La Repubblica est avec nous sur ces questions, Fabio.
Pour revenir à la question du rayonnement de Paris, la semaine passée en Italie, il y a eu une grande concentration dans le monde de l'édition, c'est-à-dire le premier groupe d'édition a acheté le deuxième, donc il a créé un groupe d'édition de 40%, qui représente 40% du marché avec tous les risques de domination.
La Commission européenne a accepté ?
La Commission européenne, pour le moment, c'est pas encore penchée dessus. On attend déjà la Commission, l'antitrust italien, qui doit se déclarer d'ici 2 mois, je crois. Il y a 2 mois pour avaliser ou pas cette opération. Mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous pensez que aujourd'hui, justement, dans la compétition internationale, est-ce qu'il faut créer des gros géants dans le monde de la culture, dans le monde de la communication, dans le monde des nouvelles technologies, ou au contraire, il faut plutôt favoriser des petites structures plus diffusées partout sur le territoire. Enfin, il y a un peu deux modèles. Oh, comment ces deux modèles peuvent s'intégrer?
Alors c'est une vraie question, mais d'ailleurs qui vaut dans tous les secteurs industriels. Hein.
Oui,
est-ce que nous devons avoir des champions européens aussi puissants qu'un champion chinois ou qu'un champion américain? Auquel cas, évidemment, l'antitrust national, français ou italien, c'est petit. Parce que malgré tout, un grand acteur français, prenez TF1, c'est un grand acteur français, mais au niveau européen ou au niveau mondial, c'est petit TF1. Donc le sujet, ça vaut pour la culture et ça vaut dans les autres domaines, c'est est-ce qu'on doit avoir des champions européens qui sont en mesure, dans une culture globalisée, de défendre la diversité culturelle européenne. En même temps, moi je vais vous dire ce que je pense. Je pense que le drame de notre pays, et peut-être le drame de l'Europe d'une manière générale, c'est qu'on a du mal à faire grandir le tout petit. C'est-à-dire que pour un Xavier Niel qui fait de Free une formidable entreprise... Une multinationale, combien il y a d'entreprises du CAC 40 qui ont été fondées en Europe, enfin en France, en l'occurrence CAC 40, en France, il y a moins...
Mais pour revenir à l'Île-de-France, comment on fait pour dynamiser ce réseau des start-up, pour redonner de l'énergie, pour faciliter la création d'emplois, pour aider les entrepreneurs? Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on est non seulement tête de liste, mais peut-être élu?
Il faut les faire grandir. Nous avons une banque...
Les biberonnés, donc vous allez vous mettre...
Alors, on a une initiative. Vous voyez, je ne vais pas dire que du mal du gouvernement. Il y a une bonne initiative qui a été prise par le gouvernement. C'est de faire grandir la BPI, la Banque Publique d'Investissement, qui est régionalisée, vous le savez, dans son mode de fonctionnement.
Et dans sa répartition financière.
Voilà. Et donc, où la région d'ailleurs siège. Et donc, on a une banque d'investissement régionale publique qui a récupéré Oseo, qui a récupéré la banque des PME. Donc, on a une structure publique qui fait un bon travail. Elle n'est pas seule. Il faut que le réseau bancaire privé viennent aussi en soutien. Mais on a besoin de financer la croissance de nos start-up et on a besoin aussi de développer le modèle du chercheur-entrepreneur. Je le dis parce que moi, je suis encore un peu déçue sur Saclay. Vous n'avez pas complètement tort, mademoiselle, de dire que le problème, c'est... Moi, je suis allée à HEC il n'y a pas très longtemps je suis encore un peu déçue parce que les HEC n'ont pas de cantine commune avec les étudiants d'Orsay. Ils sont à 10 km, mais ils déjeunent
pas
ensemble.
C'était pas comme ça quand vous étiez vous-même à HEC ?
Si, mais ces cloisonnements-là, c'est l'université de Saclay est là pour finir avec ces cloisonnements. Le jour où un jeune commercial qui fait des études de commerce déjeunera avec un jeune scientifique qui lui-même est en train de prévoir sa thèse sur, alors je ne sais pas, la radio 2.0, bah ce jour-là...
Ça permettra de créer, d'innover...
Oui, parce que le problème, en fait, c'est qu'un chercheur qui crée son entreprise, il y en a de plus en plus. Mais ils sont encore un peu tétanisés par les montants en jeu. Pour devenir Bill Gates, il ne faut pas se contenter d'une start-up qui vaut 1 million d'euros. Il faut tout de suite viser des startups qui valent plusieurs dizaines de millions d'euros. Et donc, le sujet, c'est de faire grandir nos entreprises. Et pour ça, il faut mettre ensemble les chercheurs, les entrepreneurs et les banquiers. Et le président de région peut jouer un rôle là-dedans.
Fabio Gambaro.
Et dans cette perspective, est-ce que des gros événements comme l'Expo, les Jeux Olympiques, peuvent être utiles à créer cette dynamique ou pas? Paris s'est portée candidate aux Jeux Olympiques de 2024 et à l'Expo universelle de 2025, je crois. Non, au contraire, oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ça vous semble important? Ça peut créer une dynamique. On a vu en Italie, par exemple, l'Expo universelle qui va se terminer là d'ici peu. Finalement, après toutes les polémiques qu'on a eues, comme d'habitude en Italie, tous les ratés, on est arrivé en retard au dernier moment, etc. Mais bon, finalement, il y a eu 20 millions de personnes qui sont allées. Il y a eu tout un tas d'activités économiques, pas seulement à Milan, mais dans toute la région et tout autour. En plus, l'Expo, elle est à l'extérieur de Milan, donc elle n'est pas en ville. Donc, ça a permis quand même de créer quelque chose. Quel est votre point de vue là-dessus?
Alors, je vais vous répondre très cash. Moi, je soutiendrai toutes les initiatives qui permettront de donner de la fierté et de relancer l'investissement dans notre pays. Et de ce point de vue, l'Expo et les JO sont des grands événements qui peuvent effectivement permettre de mettre tout le monde autour de la table et d'accélérer la rénovation des infrastructures, d'accélérer l'investissement et de concentrer l'investissement. En revanche, moi je vous dis aussi une chose très cash, je n'attendrai pas 2024 pour régler le problème de la croissance et de l'emploi dans mon pays. Donc le sujet, c'est il est en 2015, c'est 40% de chômage des jeunes dans certains quartiers d'Île-de-France. C'est ça mon combat et c'est là-dessus que je vais me battre en priorité.
Mais est-ce que les deux sont compatibles, les Jeux Olympiques et l'Expo?
Alors les Jeux Olympiques ont un coût qu'on connaît et qui est incompressible, hein, c'est plusieurs milliards d'euros. En revanche, l'exposition universelle, dans la version que défend Pascal Lamy et Jean-Christophe Fromentin, c'est une exposition qui est entièrement financée. Est-ce que ça va être possible, hein? Entièrement financée par le secteur privé. Donc il faut qu'on ait un dialogue. C'est évident aussi que les infrastructures qu'on aura construites pour les JO pourront aussi servir en partie pour l'Expo. Après, il y a le site de l'Expo, Il se trouve que Saclay vient de faire candidater.
Voyez, on y revient.
Il y a Villepinte qui a candidaté. Il y a évidemment le site de Disneyland aussi. Donc, on a des sites qui pourraient faire du sens. Et puis, on a Paris, bien évidemment.
Vous avez une préférence puisqu'il y a 3 sites. Hein, vous l'avez dit, Bourget, Saint-Denis, Pantin.
Non, je n'ai pas de préférence aujourd'hui. J'attends de voir les
projets. La candidate Île-de-France ne veut pas choisir entre 3 de ces communes.
Oui, bah c'est difficile de choisir un territoire plutôt que l'autre, surtout pour un projet qui est dans 10 ans. Vous savez, on a encore largement le temps.
Pour accueillir, en l'occurrence, le village olympique.
Le sujet. Alors, sur le village olympique, c'est différent. Sur le village olympique, je pense qu'il serait assez logique que le village olympique soit en Seine-Saint-Denis, pour la bonne et simple raison qu'il faut que ce soit quelque part pas loin de Roissy. Donc, on a une vraie logique à le mettre en Seine-Saint-Denis, d'autant plus que, vous l'imaginez, je veux casser les ghettos et je veux faire de la rénovation urbaine dans ce département qui en a tant besoin.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Valérie Pécresse est mon invitée jusqu'à 20h, ancienne ministre de l'enseignement supérieur, du budget, ancienne porte-parole du gouvernement, tête de liste pour les élections régionales en Île-de-France au nom du parti Les Républicains ainsi que de l'UDI et du Modem. On a parlé numérique, on a parlé aussi de l'influence de l'Île-de-France, on en vient à la culture maintenant. Peut-être pour nous repréciser les choses, c'est quoi les compétences en général des régions en matière culturelle et en particulier vu son poids financier en Île-de-France et ensuite, quelles sont vos propositions dans ce secteur ?
Alors c'est intéressant parce que la culture n'était pas dans les compétences de la région jusqu'à la récente loi NOTRe qui devait tout simplifier et qui a tout complexifié. Puisque cette loi NOTRe...
Souvent une loi en fait. Mais...
C'est un vrai sujet français et là-dessus, moi j'étais à fond pour le choc de simplification et malheureusement on a eu l'inverse. Bon, c'est un vrai problème de notre pays et je ne fais pas de la polémique politique en disant ça.
Mais c'est aussi que c'est très complexe, vous le savez.
On part, à chaque fois qu'on part faire une réforme territoriale en 2004, en 2010 ou en 2015... On part la fleur au fusil en disant « je vais tout simplifier », on se retrouve avec des trucs complètement enchevêtrés. Alors, la culture...
L'usine à gaz, problème français.
Oui, mais sauf que l'usine à gaz a un coût qui est un dysfonctionnement. Et quand vous êtes un acteur économique ou même un acteur culturel, parce que vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie, j'allais dire, de prendre l'initiative et que ça se concrétise vite. Et
le sujet... Alors, que peut faire une région ? C'est quoi ses compétences et qu'est-ce que vous proposez ?
La région a désormais la compétence culture. Donc elle peut investir dans ce qu'elle souhaite. Il se trouve que l'Île-de-France a plutôt axé sa politique sur la défense de la création, mais beaucoup moins sur la défense du patrimoine et par ailleurs sur la création, qu'elle a laissé un certain nombre de pans, j'allais dire, en jachère. Donc le sujet aujourd'hui, pour moi, c'est de savoir si on veut plus ou moins de culture dans le budget de la région.
Donc vous avez proposé d'augmenter ce budget.
Voilà, moi j'ai dit j'augmenterai de 20%.
Pourquoi ? Mais alors vous faites comment ? Vous le prenez où ?
Je vais vous dire pourquoi j'ai dit surtout. C'est parce que je vois bien que le gouvernement aujourd'hui baisse les dotations des collectivités locales et beaucoup de communes, et j'ai entendu mes adversaires d'ailleurs clouer au pilori certaines villes de droite, en disant ils ont coupé les budgets culture. Ils n'ont pas coupé les budgets culture, ils se sont retrouvés avec une baisse de leur dotation, et on ne peut pas arrêter de donner à manger aux enfants dans les cantines, on ne peut pas se fermer les crèches, donc on est obligé. La culture,
donc vous le faites sans fermer les crèches.
C'est le supplément d'âme. Donc le supplément d'âme, c'est toujours ce qui vient en dernier. Moi, je n'accepte pas qu'on dise que la culture, c'est ce qui vient en dernier. Pas dans un pays où il y a des jeunes qui haïssent.
Mais concrètement,
on
fait comment ?
Je veux qu'on ait plus de culture et plus d'éducation, c'est un vrai sujet. Donc, comment on fait ? C'est simple, on fait un plan anti-gaspille. Et je vais présenter cette semaine mon plan anti-gaspillage meilleure gestion. On va rendre l'argent aux franciliens et on va le leur rendre dans des projets concrets. J'étais à Meaux, j'étais à Montreux, les festivals sont menacés. À Boulogne-Billancourt, il y a un théâtre qui vient de fermer. Donc on a un sujet culture qui est très important et je vous le dis, là encore, il nous faut plus de culture. Et moi, ce que je souhaite d'ailleurs faire, c'est un partenariat avec les troupes de spectacles vivants, les orchestres, de façon à ce qu'ils viennent aussi dans les lycées. La région a une compétence lycée. Je pense qu'il faut vraiment donner plus de culture à notre jeunesse et que c'est le rôle de la région.
Et en termes de propositions, peut-être 2-3 propositions fortes au-delà de cette répartition d'anti-gaspillage
Alors, moi, je veux créer de la richesse. Je veux que la culture rayonne, mais je veux aussi créer de la richesse. Une proposition sur le tourisme. Je pense que, puisqu'on parle de région 2.0, je pense qu'il nous manque vraiment une application smartphone. Vous savez que 40% des touristes qui arrivent en Île-de-France ne savent pas où ils vont passer la nuit, ni combien de jours
déjà, ils
vont
passer. Déjà, ils ne savent pas qu'il faut prendre le RER, donc ils sont déjà
ça,
bien en galère.
C'est une mauvaise surprise quand ils arrivent et qu'ils s'aperçoivent
à Charles de Gaulle, oui.
que les transports ne sont pas à la hauteur. Mais non, le sujet, il est simple. L'essentiel de nos touristes se concentre sur Versailles, Paris et Disneyland. Nous devons les amener à découvrir cette extraordinaire vitalité culturelle qui est la nôtre. On doit avoir des circuits Napoléon, des circuits médiévaux, des circuits Louis XIV, des circuits impressionnistes, des circuits Le Corbusier. Allez à Barcelone, vous allez manger du Gaudi jusqu'à plus soif.
Et à Rome, vous avez Leonardo Express qui vous mène directement chez Léonard de Vinci.
Mais bien sûr, mais nous, des Gaudi, on en a combien en Ile-de-France ? Il y a eu des très bonnes initiatives, les pays d'art et d'histoire, les maisons des illustres. Maintenant, il faut mettre tout ça dans une appli unique qui permettra à tous les touristes de s'y retrouver.
Donc la solution, l'appli, Marjorie Payot.
Pas seulement l'appli, mais la mise en relation de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on superpose les offices du tourisme municipaux, départementaux, la ville de Paris, les musées, tout le monde a son truc. Et le pauvre touriste, il arrive, il n'a pas « Welcome in Paris », in the Paris region.
Valérie Pécresse, pardon.
Avec l'accent anglais, vous avez vu Marjorie.
Oui, bien sûr.
Entrepreneuse de la culture.
Entrepreneuse de la culture.
Et puis il y a les industries culturelles aussi.
Absolument, mais c'est ce que je trouve très intéressant justement, c'est cette façon finalement d'ambitionner une nouvelle façon peut-être de faire de la politique en Ile-de-France, en prenant le taureau par les cornes, si j'ose dire, en disant à un moment donné, il faut mettre tout le monde autour de la table pour que ça puisse fonctionner. Je voulais juste revenir sur un lien très intéressant que vous faisiez justement entre culture et éducation. Est-ce que pour vous aujourd'hui, très concrètement, la culture en Ile-de-France, ça peut être une arme, un levier de citoyenneté?
Mais bien évidemment. Moi, je crois, alors, je suis peut-être pas majoritaire autour de cette table, mais je crois que nous avons à bâtir un récit commun. Et que le problème que nous avons, c'est que nous ne nous retrouvons pas aujourd'hui en France dans un récit commun. Et ce récit commun, il est nourri de notre culture. J'allais dire, avec toutes les mémoires qui sont celles des Français. En Ile-de-France, on est une région monde. Donc la culture, elle est évidemment, elle nous amène des influences de partout. Mais elle nous amène des influences de partout dans un récit commun. Et redécouvrir les classiques, redécouvrir les belles lettres... Et en même temps faire vivre la créativité, la création, c'est extraordinaire.
Ce que Paris fut pendant longtemps, n'est-ce pas?
Et ça va du menuet au hip-hop, si vous me permettez, Monsieur Martel, la culture française. Et il faut qu'on la redécouvre. Moi, quand je vais au festival de Saint-Denis et que je me retrouve en train d'écouter du baroque à la basilique de Saint-Denis, je me dis voilà ce que c'est que la France.
Ce
mélange.
Il y a aussi du rap et du hip-hop à Saint-Denis.
Du rap et du hip-hop à Suresnes. Et ben voilà, au festival de danse.
Fabio Gambaro, votre expérience au CCJ.
Oh, c'est sûr que Paris et la France ont toujours été un modèle pour nous en Italie. On a toujours parlé de Paris, capitale mondiale de la culture. Aujourd'hui, un peu moins peut-être. Un peu partout, on parle du déclin. Et peut-être que rester seulement sur le passé ne permet pas le renouvellement. Parce qu'en même temps, pour continuer à rayonner, la culture française a besoin de continuer à produire des nouveautés. Donc,
moi, je n'oppose pas les deux. Hein.
Valérie Pécresse, cette question est essentielle. Vous avez un Italien qui vous dit, voilà, qui d'ailleurs vit à Paris, oui, qui parle très bien notre langue et qui est venu ici parce qu'au fond, Paris, l'Île-de-France, c'était un symbole pour des millions de gens à travers le monde et ce n'est plus, peut-être plus assez le cas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que Paris redevienne ce pôle d'attraction mondiale, culturelle?
Pour moi, je crois vraiment que l'idée, c'est d'encourager les initiatives. Mais il faut aussi pour ça créer de la richesse. Donc moi, j'oppose pas ni le patrimoine et la création, ni la culture et l'argent. Je suis sans tabou de ce point de vue. Comme j'avais dit aux universitaires, allez chercher des mécènes, faites financer par le privé vos programmes. Je crois qu'aujourd'hui, quand il y a de l'argent qui est prêt à s'investir, il faut le saisir. D'ailleurs, une formidable réussite, ça a été la fondation Louis Vuitton. Aujourd'hui, personne ne conteste que ça apporte au monde de l'art contemporain parisien. Donc, on peut travailler avec le mécénat privé. Moi, je n'ai pas de tabou. Mais au-delà de ça, je remarque une vraie vitalité qui est, là encore, j'allais dire, un peu bridée par les règles, les réglementations. Prenons le cinéma. Vous savez que le CNC finance les films à condition qu'ils soient en français.
Centre national du cinématographie.
Voilà. En français. Donc, on a parfois des films qui ont un metteur en scène français, par des acteurs français, un financement, une producteur français, et qui ne sont pas financés par le CNC. Moi, je préférerais qu'on dise...
Oui, c'est aussi comme pour les quotas, lorsqu'on chante
après,
en anglais,
choisit,
etc. Il y a des débats complexes.
Et c'est parce que le critère qu'on a choisi, c'est celui de la langue. Peut-être que le critère qu'on devrait choisir, c'est le lieu de tournage. Ou alors un critère alternatif, langue ou lieu de tournage.
Le rayonnement, est-ce que ça sert les intérêts d'apprendre ?
Moi, je préférerais que les films soient tournés à Paris. Parce que la langue, moi je suis pour la sauvegarde du français bien évidemment, mais la langue, ça permet d'aller tourner des films en français, en Tchécoslovaquie ou à Londres. Moi, je préférerais qu'on dise, il faut que le lieu de tournage soit en Île-de-France, parce que ça créerait de l'emploi et ça ferait vivre nos studios.
Donc comme Fleur Pellerin, vous auriez accordé à Luc Besson justement le fait de pouvoir bénéficier de coûts réduits de TVA, en effet, pour Valérian, pour le tournage de Valérian, de courrier de TVA en France, puisque le tournage peut se faire en France à un moment donné, et peut-être même en Île-de-France.
Bah, à ce moment-là, on n'a qu'à dire majoritairement en France. Parce qu'il ne faut pas que ce soit juste 5 minutes en France, hein, attention, parce que les détournements de subventions, je connais. Hein.
Fabio Gambaro.
Non, moi, je voulais revenir un moment aux questions de numérique qu'on a abordé tout à l'heure.
Et de démocratie.
Et des démocraties qui sont liées à ça. On parle souvent d'une nouvelle technologie comme un moyen de... d'essayer de dépasser la crise de la démocratie. On parle beaucoup de crise de la démocratie en ce moment, de incapacité de se renouveler, d'un fossé qui s'est créé entre les élus, le monde politique, le reste de la population, etc. Alors, il y a des expériences de démocratie directe par Internet, par les nouvelles technologies. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Est-ce que vous croyez que ça peut aider ou au fond, c'est un peu de la démagogie populiste ?
La République non. numérique, Valérie Pécresse.
Moi, je crois beaucoup à la transparence. Je crois à la transparence parce que on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une demande d'exemplarité de la classe politique en général qui est extrêmement forte. Et c'est vrai que face à cette demande, si on n'y répond pas, on nourrira les extrêmes. On nourrira aussi la théorie du complot, etc. Donc il faut de la transparence. Par exemple, les associations. Aujourd'hui, vous avez 210 000 associations en Île-de-France, dont un certain nombre d'associations culturelles. 210 000 associations, seulement 3 500 qui sont financées par la région. Alors si vous enlevez les associations reconnues d'utilité publique, opinion sur rue, du genre Resto du Cœur ou Secours Populaire, ça vous en fait quand même 3 000. Comment sont-elles choisies ? Qui les a choisies ? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à faire un site à la région, avec éventuellement peut-être même du crowdfunding, où on dirait, vous voyez que moi je n'ai pas de tabou hein, sur ces questions financières, non mais où on dirait, venez présenter votre projet sur Internet, les franciliens regarderont et ils diront s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Alors vous allez me dire, on peut acheter des likes et ça peut être détourné. Oui, mais la transparence, c'est ce que
la transparence,
demande.
C'est aussi l'ouverture des données publiques en Île-de-France.
Voilà, 210 000 associations, il n'y en a que 3 500 qui sont financées par la région. Pourquoi celle-ci ? Pourquoi pas d'autres ? Clientélisme, opacité, toutes les soupçons sont permis. Et ça peut arriver, on va dire. D'ailleurs, j'ai quelques exemples en tête. Quand on donne 60 000 euros à une association pour la démocratie au Myanmar qui est présidée par un conseiller régional vert, on se dit que 60 000 euros, c'est quand même plusieurs années de salaire d'un francilien. Donc, on aurait peut-être
plus. Puisque vous parlez des Verts pour élever le débat, la COP21, le sommet de l'environnement fin novembre à Paris, c'est une chance pour l'Île-de-France ?
Du coup,
vous le soutenez ?
Ce qui est totalement ubuesque. Moi, j'ai toujours été du côté des climatologues. Quand j'étais ministre de la Recherche, j'avais à l'époque obligé l'Académie des sciences françaises à se prononcer à huis clos sur le discours de Claude Allègre. Parce que nous étions l'un des derniers pays dans lequel l'Académie des sciences n'avait pas pris position sur le réchauffement climatique et sur l'influence de l'activité humaine sur la pollution de l'air. Donc le sujet, l'Académie des sciences s'est réunie et a tranché et a dit que oui, il y avait des changements climatiques. Donc j'ai toujours été du côté des climatologues.
Vous avez vu Human de Yann Arthus Bertrand, vous savez, les hommes avec des humains, ce coup-ci ?
Alors, malheureusement, j'ai raté le film, mais bon, bah Yann,
voir,
pardon,
sur YouTube,
Yann, pardon,
et sur Dailymotion.
Je jure que je vais le télécharger et que je vais le voir très vite. C'est la campagne qui m'en a empêché, malheureusement.
Vous souhaitez déménager le conseil régional de l'Île-de-France en banlieue ? Dans quelle ville, par exemple ?
Ah, mais je cherche, mais j'ai
vous reprenez déjà... votre bâton de pèlerin. Et...
Non, mais j'ai déjà quelques petites idées, mais ça sera évidemment soit en Seine-Saint-Denis, soit dans le Val-de-Marne, parce qu'il faut que ce soit sur une ligne de métro, idéalement, pour qu'on puisse y aller assez facilement, ou de RER, et puis il faut que ce soit à peu près central, et il faut que ce soit pas cher. Parce que l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on a 5 hôtels particuliers, qui valent plus de 200 millions d'euros, et que, comme c'est pas très logeable, on paye 27 millions d'euros de loyer dans le 7e arrondissement. Moi, je veux rendre cet argent aux franciliens. Ils le méritent. Ils payent déjà suffisamment.
Vous aurez reconnu, je ne vais pas vous demander ce que nous écoutons, Valérie Pécresse, mais Gaspard de la Nuit de Ravel, interprété par un jeune pianiste qui est une révélation depuis ses 13 ans. Retenez son nom, Benjamin Grosvenor. Il a 23 ans, il est anglais et il sera jeudi soir en vedette top vedette à Carnegie Hall à New York. Il jouera justement du Ravel. On en reste là pour ce soir. Merci infiniment d'être venu dans South Power. Valérie Pécresse, candidate pour les élections tête de liste Républicain UDI Modem en Ile-de-France. Xavier Filliol, co-organisateur des rencontres radio 2.0 qui auront lieu mardi 13 octobre à la SACEM, où on pensera donc, où on pensera le futur de la radio. Merci également.
Merci.
Merci aussi à Marjorie Paillon de France 24, Fabio Gambaro de La Repubblica. Dimanche prochain, nous parlerons des arts numériques. Vous pouvez vous abonner à nos deux podcasts, Soft Power et l'Alphabet numérique, sur le site franceculture.fr. Cette émission ce soir a été préparée par Mathilde Wagman à la régie. Deux personnes ce soir, Jacques Hubert et Emmanuel Morse Duncan dans ce grand studio 108. Soft Power, une émission de Frédéric Martel réalisée ce soir par Olivier Guérin. Dans un instant 20h, vous retrouvez Secret professionnel avec Charles Danzig. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.